Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on est fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du lundi 20 janvier 2020, nous discuterons notamment avec Philippe de l'association Transitionneur, située sur le territoire de la Croix, Saint-Leufroy notamment, Fontaine-de-Bourg. Voilà, on parlera de ce territoire-là, de comment les citoyens, en tout cas certains d'entre eux, se mobilisent, notamment face au changement climatique et autres réjouissances écologiques. On en saura plus d'un coup dans cette émission avec Philippe de l'association Transitionneur. On fera évidemment un détour du côté des bons plans, pas mal de concerts à vous annoncer. On en écoutera des extraits ce matin, ce sera l'objet de nos pauses musicales et le tout vous sera servi avec du bon son et de la bonne humeur. En tout cas, on l'espère, on va gentiment d'ailleurs se dire bonjour avec Lee Fields and the Expressions. Ils reviennent au 106, ça se passe demain, mardi 21 janvier. C'est pas la première fois qu'ils sont du côté de Rouen et nous en sommes ravis. On va écouter le morceau qui s'appelle « Wake Up ». Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR. and the Expressions. Le morceau, c'était Wake Up. Ils sont en concert demain, mardi 21 janvier. Ça se passe au 106 à Rouen. Ils partageront la scène avec The Jay Vance. Je vais y arriver.
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principe Actif.
Bonjour.
Moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, là, like t'es mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 dans le sud département de l'Eure et 99.1 sur Rouen, son agglomération évidemment. D'habitude à cette heure-ci ou presque, nous diffusons vos messages répondeur, il n'y en avait pas. Je rappelle que vous pouvez laisser vos avis, vos réactions, vos infos, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos annonces d'événements ou tout simplement nous donner de vos nouvelles. Et pour ça, ça se passe au 02 32 62 57 32. Je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre. Pour la peine, avant de retrouver Philippe de l'association Transitionneur, un peu de musique avec un autre concert qui a lieu demain, toujours mardi 21 janvier. Ça se passe cette fois-ci du côté de la maison de l'université. C'est à Mont-Saint-Aignan. Ça s'appelle Sages comme des sauvages. On va écouter le morceau qui s'appelle Brindille à mon enfant.
Si attire les couteaux, ou ennemi change visage en frère et chante l'ancien. Donne-moi récit à porter sur le dos, les si jolies la face de misère et chante l'ancien. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance. Se brise ici. Amène aussi la souffrance. Amène aussi la souffrance. Se brise ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à mon enfant. Donne à manger moins qu'on vendre. Donne à moi récit à se montrer les dents. N'a fait festin du coq de bataille, chante là aussi. Donne à moi récit à pleurer les parents, les t'oublier, les tes fiançailles, chante là aussi. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance, c'est brisé ici. Amène aussi la souffrance, amène aussi la souffrance, c'est brisé ici. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. Amène aussi des brindilles à nos enfants. Donne à manger moins qu'on prendre. Tu me manques ici, tu me manques là. Ça me manque ici, du moment que c'est pas là. Tu me manques ici même, même. Tu me manques là même, même. Ça me manque ici même, même. Du moment que c'est pas la même, même. Celui qu'on a embrassé n'est pas le mal gagnant. Ceux qui en font des familles ne sont pas mariés. dit à mon enfant, donne à manger moins comprendre.
Voilà, sage comme des sauvages avec le morceau Brindille à mon enfant. Ils sont en concert. Ça se passe demain, mardi 21 janvier, du côté de la maison de l'université à Mont-Saint-Aignan.
Les poussines dans le pâte, tariatahé, j'ai pris une fourchette, tariataho, c'est pour les trempilles, tariatahé, il est dur pas cuite, tariataho. Fique taranelle, c'est que pandourlane, fique taranelle, c'est que pandourlé.
Nous sommes maintenant avec Philippe de l'association Transitionneur. Voilà, on va le dire comme ça. Bonjour à vous, Philippe.
Bonjour.
Alors, Transitionneur, c'est une jeune association puisqu'elle a un peu moins d'un an maintenant. Elle est implantée notamment sur un territoire bien particulier, Fontaine-Hautebourg, La Croix-Saint-Leufroy. C'est notamment les communes sur ce bassin de vie. On prendra le temps de détailler un petit peu l'implantation géographique de l'association. Et vous organisez notamment ce week-end, ce vendredi, première rencontre autour des questions d'alimentation, voilà, avec des défis culinaires et caniculaires, c'est comme ça que c'est présenté, tour de table climatique. L'idée au travers de tout ça, et vous me corrigerez quand je dis des bêtises, mais c'est comment au travers d'autres pratiques alimentaires de consommateurs, on peut avoir un impact sur les changements climatiques. Donc ça, c'est une des portes d'entrée de l'association. Mais peut-être que pour commencer, on peut évoquer avec quelle intention cette association a été créée, avec qui, et puis cette question du territoire aussi que j'ai commencé un peu à aborder. Voilà, trois questions en une pour ouvrir, Philippe, si vous voulez bien.
D'accord. Alors, l'association, on l'a créée avec un ami. On s'est rencontré en fait sur un jardin participatif et on s'est dit que plutôt que d'aller loin de notre commune pour faire du jardin participatif, ça serait bien d'agir sur notre commune. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de localiser l'association sur la commune nouvelle de Clay-Vallée-d'Eure qui regroupe Écardonville-sur-Eure, La Croix-Saint-Leufroy et Fontaine-Hautebourg. Et notre souci, ça a été de ne pas trop intellectualiser la démarche, mais de passer à l'action et de ne pas limiter le fait que la transition écologique qui s'annonce se limite au jardin. Donc on a créé cette association, on a mis des petits flyers dans les boîtes aux lettres de nos concitoyens, on a été présent sur un petit forum artisanal et à notre grande surprise, on a fait une première réunion avec plus d'une vingtaine de personnes et tout de suite on les a mis au travail en leur posant la question, quels sont les thèmes qui vous paraîtraient les plus importants à travailler pour aider à sensibiliser nos concitoyens à la transition écologique. Donc il y a trois thèmes qui se sont développés, il y a le jardin, le fait de préserver le vivant, on est dans un milieu rural et ça tient beaucoup à cœur aux gens. Et puis, le dernier thème, ça a été consommer autrement, d'où ce défi effectivement culinaire et caniculaire, puisque notre alimentation est responsable d'environ 25 à 30% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est un levier fort pour réduire ces émissions de gaz. Et il va falloir qu'on change nos habitudes. Donc nous, on a décidé de lancer des défis, parce que en proposant aux gens qui viendront nous rencontrer, donc de changer leurs pratiques à la fois culinaires, mais à la fois de consommateurs, puisque on peut, par l'alimentation, réduire ses déchets, réduire ses emballages, faire du compost, réduire le gâchis alimentaire. On peut aussi, bon ça c'est un peu plus complexe à appréhender, mais en mangeant bio, on s'aperçoit qu'on réduit aussi les gaz à effet de serre. Évidemment, manger moins de viande, moins de poisson, etc., etc. Donc l'idée, c'est que les personnes viennent nous rencontrer, on travaille en petits groupes, Et ils vont s'engager sur le premier défi, ce sera à réduire leurs emballages alimentaires. Donc l'objectif, ça sera de peser ces emballages alimentaires la semaine qui suit notre entrevue. Et puis on se retrouve environ 2 mois après et on va faire une nouvelle pesée de ces emballages et voir ce qu'on a gagné en émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on pourra pousser le jeu jusqu'à calculer les kilos de CO2 économisés.
Oui, parce que quand vous dites que 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre ont un lien direct avec l'alimentation, là ce qu'on a en tête c'est le fait que on va pêcher un saumon, je sais pas où frais les saumons, mais par exemple aux États-Unis, on va l'emballer en Chine et on va le consommer en Espagne. C'est notamment cette question-là du transport de denrées alimentaires aux quatre coins du monde qui génère une pollution importante. C'est juste pour qu'on comprenne bien, notamment d'où ça vient concrètement, bah voilà, cette pollution en lien direct avec nos pratiques alimentaires et de consommation alimentaire.
Alors, il y a effectivement une pollution qui est liée au transport, donc c'est pour ça qu'on nous dit acheter local. Si, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, acheter bio, parce que effectivement acheter bio, alors c'est vrai que c'est plus cher, tout le monde ne peut pas s'offrir que du bio, mais on peut acheter certains produits bio en fonction de ses finances. Dans le bio, il y a moins d'intrants, il y a moins d'engrais, les pratiques agricoles utilisent généralement moins d'essence parce que le tracteur passe pas tout son temps à aller venir dans le champ pour vaporiser des pesticides. Donc ça, c'est du carburant d'économiser. L'alimentation, c'est aussi des emballages. Emballage essentiellement plastique. Alors, outre les problèmes de santé que ça génère, puisqu'il y a des polluants qui passent dans l'alimentation à cause des emballages plastiques qui sont relargués, mais c'est aussi les plastiques qui sont faits à partir d'essence. Manger moins de viande parce que l'élevage intensif, ça détruit de la terre, ça émet du CO2, le bétail émet beaucoup de méthane, et le méthane c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 4 fois plus intense, 4 fois plus fort que le dioxyde de carbone qui est le principal gaz émis. Voilà, donc à travers toutes ces choses-là, il y a plein de façons de réduire ces émissions de gaz à effet de serre.
Donc on en arrive à ces propositions que vous avez évoqué, notamment d'ateliers, de rencontres sous forme de défis. Donc dans un premier temps, comment on peut réduire les déchets liés à la consommation alimentaire. Le fait que ça passe par un jeu, un défi, c'est aussi une façon, j'imagine, de stimuler un peu les gens de l'association, de la structure, de se dire en se défiant, tiens, je te lance un défi. Tout de suite, on joue, il y a une interaction un peu plus sympa que le côté un peu moralisateur. Alors ce serait bien que t'arrêtes de faire ci, de faire ça. J'imagine que il y a ce côté ludique, c'est aussi pour le rendre un peu plus sexy.
Oui, tout à fait, parce que effectivement, si on fait une grande conf très moralisatrice en disant il n'y a qu'à Faucon, tout le monde va applaudir, va dire oui, il faut qu'on le fasse, et puis on rentre chez nous et on ne change pas ses habitudes. En se confrontant à d'autres personnes qui ont déjà commencé, ça prouve que déjà c'est possible parce qu'ils ont survécu à ce changement. Moi avant, j'avoue, j'allais acheter mes paquets de riz bien rectangulaires qui c'était très pratique à ranger. Maintenant, j'achète en vrac et quand j'arrive chez moi, je transvase mon petit sac de vrac de riz dans un bocal. Alors c'est un peu plus long, mais je m'en porte pas plus mal. Donc l'idée de ces défis, c'est pas un défi sportif, on n'est pas en concurrence, en compétition, mais c'est de se lancer un petit challenge et de se mettre un coup de pied aux fesses et de passer à l'action.
Donc on a évoqué ces défis, ces rencontres autour des questions d'alimentation. Il y a d'autres sujets, vous en avez un petit peu parlé, notamment autour de préserver le vivant, le projet de jardin. Moi, je veux bien qu'on parle aussi un peu de ces ateliers-là, ces projets-là. Je sais qu'il y a eu des ateliers nichoirs, fabrication de pour les oiseaux. Et ça a fait des petits parce que maintenant on commence à vous contacter pour réitérer l'expérience. Alors, je veux bien qu'on parle de ces deux projets-là. D'un côté, les ateliers nichoirs, comment ça a commencé, où on en est aujourd'hui, et puis ce projet de jardin sur le territoire qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai oublié le nom du regroupement des trois communes.
Clé Vallée d'Eure.
Donc là, il y a un projet de jardin là-dessus. Bon, commençons par ça, Philippe, si vous voulez bien. Le projet de jardin sur le Clé Vallée d'Eure.
Alors, dans l'association, on a la chance d'avoir une maraîchère bio qui va s'installer à Clé Vallée d'Eure, qui va démarrer son activité là au printemps pour les premières productions en fin de printemps et à l'été. Et donc, avec cette maraîchère, on est en train de développer une collaboration, on va dire, où elle va mettre à disposition une petite parcelle d'environ une centaine de mètres carrés pour que nos adhérents puissent apprendre des techniques de jardinage permacole, puisque ça va être du maraîchage qui s'appuie sur des techniques de permaculture. Donc on a l'échange qui est fait avec elle, c'est qu'elle va nous transférer des connaissances. Et en échange, on va lui filer un petit coup de main, puisque quand on s'installe, c'est toujours un peu dur la première année. Et puis, de temps en temps, il faut des bras pour repiquer des poireaux ou récolter des fraises, s'il y en a beaucoup. Et donc, voilà. Donc, c'est un échange de bons procédés. Le but, c'est qu'on apprenne, puisque le jardin, c'est dans l'association, ça a été une demande très, très forte. Bien qu'on soit en milieu rural et qu'on puisse penser que, comme on a tous la chance d'avoir un jardin, on a forcément tous notre potager, c'est loin d'être vrai. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, que c'est, vu nos modes de vie actuels, puisque même quand on est en milieu urbain, en fait, on adopte quasiment tous des modes de vie. J'ai dit en milieu urbain. Quand on est en milieu rural, on adopte tous des modes de vie plutôt urbains. On a perdu complètement le savoir-faire de jardiner, d'avoir son potager. Voilà, ça s'est perdu. Donc, il faut qu'on réapprenne, et c'est ce qu'on va faire avec cette maraîchère.
Oui, et ça fait le lien très concrètement avec la première partie de nos discussions autour des questions de l'alimentation, puisque l'idée, j'imagine, que quand on fait un jardin, et notamment un potager, c'est au bout d'un moment, évidemment, de manger, de consommer sa production. Ce qui est surprenant, vous avez insisté un peu là-dessus, c'est de se dire que, y compris en milieu rural, les techniques, le savoir un peu ancestral, pour utiliser un peu des grands mots, s'est perdu en route parce que y a eu un basculement qui s'est opéré dans les modes de vie. Vous en avez parlé juste à l'instant. Quand on parlait d'alimentation, de défis alimentaires, on parlait de compost, ce genre de choses, ça va avec. Et c'est vrai qu'il y a des choses à réinterroger, à retravailler, à re-questionner pour changer un peu ses pratiques et en même temps recréer de la dynamique, y compris dans son jardin. Parce que là, il y a le projet de jardin partagé, mais peut-être que parmi les adhérents de l'asso, il y a des gens qui vont... peut-être recréer un potager chez eux, j'en sais rien, on peut imaginer ça. Pour finir quand même mon propos sur une question, le projet de jardin partagé là avec la maraîchère, c'est prévu pour quand? J'imagine que c'est déjà en travail, là, c'est l'hiver ceci dit, donc c'est un peu plus compliqué, mais juste pour qu'on ait une petite idée, quoi.
Alors ce projet, il y a une réunion de prévue à la toute fin du mois, vraiment pour cadrer le calendrier de culture, etc. avec elle. Et les premiers semis, pour nous, ça va être, je pense, mi-mars. Et puis voilà, ça se développe sur le courant de l'année.
Punk de Kumusta avec ce morceau qui s'appelle Care, à retrouver en concert mercredi soir dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. C'est le tremplin, la sélection, ça se passe au 106, donc mercredi soir. Outre Kumusta, vous retrouverez Awa Lehman, c'est du R&B, Younes, c'est du rap, Julius Pellman, c'est plutôt soul, et Dahlia, de l'électro, électro plutôt sombre, donc à retrouver au 106 à partir de 18h30 mercredi soir. C'est entrée libre, mais sur invitation à retirer sur le site internet réseau-du6printemps.com pour cette soirée tremplin inouï des Printemps de Bourges, à retrouver au 106 à Rouen mercredi soir. On poursuit nos échanges avec Philippe de l'association Transitionneur. Alors, on a évoqué aussi, et je veux bien qu'on prenne le temps d'en parler un peu plus, les ateliers nichoirs. Voilà, l'idée, là, c'est de permettre une réimplantation de certaines espèces qui, pour plein de raisons, et peut-être que vous pourrez éventuellement préciser, s'enfuit, s'effondre aussi. Hein, là, si on parle régulièrement de la sixième extinction de masse, il y a des espèces qui étaient communes par chez nous, qu'on drastiquement été réduites, voire même sont en train de disparaître. L'idée de base, j'imagine que c'est celle-ci, c'est de pouvoir permettre à certaines espèces de revenir s'implanter sur nos territoires. Comment ça s'est concrètement déroulé, cet atelier nichoir? Et puis on en est aujourd'hui, parce que je crois que ça se développe aussi ailleurs, on vous sollicite pour d'autres projets de ce type.
Oui, alors tout à fait. Alors, un des thèmes qu'on avait souhaité aborder quand on a fait le premier brainstorming avec tous les adhérents, ça a été préserver le vivant. Et la question qu'on a posée, c'est d'accord, mais comment ? L'idée qui a émergé, c'était de recréer des nichoirs pour des animaux, comme vous l'avez dit, qui sont mis en difficulté pour différentes raisons. Et donc, on a proposé un atelier nichoir qui était ouvert à tous. Donc, l'avantage de cet atelier, c'est qu'il se fait de 7 à 77 ans. Donc, on a eu des grands-parents avec leurs petits-enfants, des parents avec leurs enfants. Enfin, on a eu un public très varié et très peu de membres de l'association. Donc, ça, c'était vraiment important pour nous. On a proposé, durant cet atelier, une petite conf d'environ une demi-heure, donc c'est pas trop rébarbatif. Même les enfants ont été très sages d'ailleurs, ils ont écouté très studieusement. Et ensuite, on est passé à l'action. On avait préparé des kits nichoirs, les gens avaient réservé à l'avance. Donc il y avait un kit pour les mésanges, les hirondelles, les chauves-souris et les hérissons. Puisqu'au passage, on a perdu 70% de la population de hérissons. Donc on avait amené tout un tas de matériel, des visseuses essentiellement, et les gens ont assemblé leurs nichoirs et sont repartis avec leurs nichoirs. Et tout ça, c'était gratuit parce qu'on a fait ça avec du bois de récupération. Comme on a communiqué, bien qu'étant jeune, on a communiqué via Facebook sur cet événement, et la mairie de Saint-Sébastien de Morsan, qui connaît des problèmes d'invasion de chenilles processionnaires, nous a contacté, puisque l'Agence régionale de santé leur a préconisé de favoriser l'implantation de mésanges sur le territoire pour combattre ces invasions de chenilles. Et la mairie de Saint-Sébastien nous a commandé 50 nichoirs, donc on sera présent chez eux le samedi 25, toute la journée, pour reproduire cet atelier nichoir. C'est la mairie de Saint-Sébastien qui a pris en charge les frais de matières premières pour les nichoirs, et les nichoirs seront aussi offerts aux habitants de Saint-Sébastien.
Voilà, donc on peut aussi solutionner tout ou partie certains des problèmes qui s'offrent à des territoires, à des populations aussi, en mettant un peu d'huile de coude, un peu de main à la pâte, et puis il y a des choses comme ça qui peuvent avancer sans faire trop de dégâts, au contraire en recréant de la vie, en favorisant la réimplantation d'espèces, comme on le disait, sur des territoires. Des considérations un peu générales. Quand je discute comme ça avec des associations ou des membres d'associations telles que la vôtre, on se dit, sur des territoires comme le vôtre, mais comme ailleurs, sur Évreux ou ailleurs, il y a des citoyens, des, des personnes qui sont concernées, qui se sentent concernées, plutôt bien informées sur un certain nombre de problématiques. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais c'est pas le seul problème et le seul défi de notre temps, pour utiliser encore une fois des grands mots. Il y a cette sensation, peut-être que c'est ça va être un parti pris que je vais prendre là, mais la sensation qu'une prise de conscience a quand même eu lieu au sein d'une partie de la population, du fait qu'il fallait agir, que le plan local était un bon moyen, déjà parce qu'en général les gens qui peuvent apporter des solutions sont à côté de chez nous, ça évite de faire le tour du monde, que en plus concrètement c'était quand même une bonne porte d'entrée pour agir, encore une fois sans faire le tour du monde, et puis c'était à notre portée et qu'on avait une maîtrise de ce qu'on faisait et qu'on pouvait observer très rapidement et très concrètement un changement, une évolution, en tout cas une dynamique. Comment, pour finir quand même sur une question pour vous, Philippe, quel regard vous avez là-dessus, sur cette prise de conscience au sein de ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique, ou en tout cas de nos semblables, de ces préoccupations-là?
Alors, je vais illustrer ma réponse par ce qui s'est passé quand on a créé l'association. On s'est retrouvé. C'est vrai que quand on a tenté notre chance, on s'est dit on risque de pas séduire beaucoup de monde. Et à notre grand étonnement, sur un bassin de vie qui représente un peu plus de 2000 personnes, on a eu 25 personnes qui spontanément sont arrivées à cette première réunion avec cette prise de conscience. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est que les gens qui sont dans l'association, c'est pas des écologistes. C'est pas des militants de la première heure, j'en suis pas un personnellement, mais des gens qui effectivement prennent conscience que là on va dans le mur, que ça va nous tomber dessus, que on peut plus se mettre la tête dans le sable et qu'il faut qu'on agisse et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et mais en même temps, il y a aussi cette quelque part un peu cette peur, parce que je pense que les écologistes de la première heure, pour le coup, ont eu une étiquette assez peu reluisante qu'on leur a collé ça sur la tête, parce que je vais pas rentrer là-dedans, sinon je vais m'étendre trop longtemps. Et il y a un peu cette crainte de dire, moi je suis sensible à ce qui se passe, le regard de l'autre, est-ce que mon voisin, si je lui dis arrête avec ton désherbant, est-ce qu'il va pas m'engueuler, etc. Et il y a beaucoup de gens autour de la table, la première réunion, on dit c'est super de se retrouver ensemble parce que je suis plus le seul extraterrestre. Et je pense que cette prise de conscience est réelle, mais elle reste timide parce que il y a peut-être encore des tabous à franchir, à oser dire oui, moi ça m'inquiète et je veux agir et comment. Il n'y a pas non plus une multitude d'associations qui existent, faut aller les chercher, faut s'investir. Il y a beaucoup de questions. On a la chance, comme vous l'avez dit, d'avoir dans l'association, en fait, on se rend compte qu'on a des gens qui savent faire plein de choses et que c'est vachement complémentaire. Et on était étonnés de ça, d'avoir cette diversité, et quand on a cette diversité de compétences et qu'on les met ensemble, mais on peut aller très très loin. Donc je sais pas si ça répond tout à fait à votre question, mais
En tout cas, on sent un certain optimiste. Quant à cette prise de conscience, vous le disiez, elle n'est pas forcément majoritairement répandue pour le moment, mais on a la sensation quand même que ça avance petit à petit dans toutes les couches de la population, dans toutes les classes, dans tous les milieux. On parlait de villes, de campagnes, ça progresse. Le fait aussi, vous l'avez souligné également là à l'instant, qu'on puisse s'appuyer sur diverses compétences, ça fait avancer les choses un peu plus vite et on voit des résultats concrets, parce que c'est peut-être ça aussi qui met des coups de pied aux fesses à certains et certaines, c'est que concrètement sur le terrain, même si en France un certain nombre de changements, notamment pour parler de changement climatique, sont pas forcément les choses les plus visibles. On parlait d'espèces animales ou végétales qui disparaissent. En France aussi, on connaît ça, on le voit. Mais quand on n'est pas dans le milieu, quand on n'est pas en contact avec les scientifiques, etc., on le matérialise pas forcément. Par contre, concrètement, quand on voit les images de l'Australie là à l'heure actuelle qui crame, etc., j'imagine que dans la tête de personnes qui n'avaient pas forcément été plus sensibilisé que ça à ces questions-là. Là, il doit quand même y avoir quelque chose qui se passe. Et en même temps, tant que ça reste derrière un écran et que c'est à 30 000 km, le coup de pied aux fesses, il est peut-être pas très très violent, si je puis dire. Il y avait une autre question en lien avec ça, c'est-à-dire que on évoquait le fait que une grande partie des réponses qu'on pouvait apporter à son échelle, c'était sur le plan local. Néanmoins, il y aura ou il y a déjà besoin d'un appui économique, financier, mais aussi politique. Et là, sur ces sujets-là, la sensation que ça se verdit un peu, parce que bon, il y a des campagnes électorales qui arrivent là prochainement, ça n'a échappé à personne. Ceci dit, ces élections sont locales, donc ça fait le lien avec nos problématiques et notre questionnement. Mais il y a l'échelon, national, supranational, international, où là, on a quand même l'impression que on est dans une impasse. Je termine encore une fois avec une question, Philippe. Votre regard là-dessus? Voilà, là on a quitté Fontaine-Audebourg et la Croix-Salefroy, on a parlé de l'Australie. En quelques mots, où va-t-on dans ce marasme de la question climatique internationale?
Alors, où va-t-on? Alors, prédire le futur, c'est un exercice bien difficile, hasardeux, et ça se traduit souvent par un échec quand on fait des grandes prédictions. Alors, je ne vais pas disculper les politiques, mais ce dont je suis convaincu, c'est que le modèle dominant qui s'est développé tout au long du XXe siècle et qui a abouti à la situation actuelle, fait que les hommes politiques nagent là-dedans et c'est leur univers. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des scientifiques et des citoyens qui sont en train de leur dire, mais votre univers, c'est pas le bon, ça, il marche pas, et là, va falloir en changer. Et quand vous baignez dans un univers professionnel, je vais dire, pour ces hommes politiques, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais ton truc là, c'est pas le bon, c'est absolument terrifiant, et en tant qu'être humain. Et je suis convaincu qu'il y a cette persistance et cette fuite en avant dans le système actuel est aussi liée à des peurs qu'ont ces hommes politiques de se remettre profondément en question et de se dire si je continue comme ça, mon milieu professionnel, puisque c'est leur milieu professionnel, va s'écrouler et je ne vais plus avoir de boulot. Et ça, c'est très très dur. Ça, c'est on le retrouve ces mécanismes de fonctionnement. On le retrouve dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux en entreprise. Et là encore une fois, il me faudrait plusieurs heures pour développer. Mais ce qui a amené l'émergence des risques psychosociaux dans les entreprises, c'est exactement les mêmes raisons et les mêmes causes qui ont amené au problème de dérèglement climatique.
On pourrait résumer ça par une forme d'angoisse paralysante, c'est-à-dire que face aux défis et face à la remise en question tellement profonde qui serait nécessaire pour changer de logiciel, il y a une forme d'apathie, de paralysie. Peut-être que ça, c'est leur quelque part leur chercher un peu des excuses et pas forcément des poux dans la tête, parce que peut-être qu'il y a aussi des intérêts économiques et financiers derrière tout ça. On aura peut-être l'occasion, Philippe, une autre fois de discuter, d'échanger plus longuement sur ces considérations un peu plus globales et générales. Moi, je voulais quand même finir et pour revenir sur Transitionneur, votre association. Si on veut rentrer en contact avec vous, participer à des défis, à des ateliers, ou tout simplement échanger avec vous, comment on fait?
Alors, le plus simple, c'est de nous contacter sur notre boîte mail, Transitionneur. En un seul mot, avec un E à la fin, évidemment on est dans le département, donc transitionneur@lilo.org. Et moi je voudrais conclure par une phrase de Sénèque qui a dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas que les choses sont difficiles.
Merci à vous Philippe de l'association Transitionneur. On vient d'écouter le morceau Hyperion du groupe Slift. Ils seront en concert ce jeudi 23 janvier, ça se passe au Cube à Évreux. Ils partageront la scène avec Lysistrata, donc jeudi 23 janvier du côté du Cube à Évreux.
Sí, señor. Por favor, no se muevan de sus asientos. Vamos a tomar un pequeño descanso y ya volveremos con más música para ustedes.
Avant de passer au bon plan, on va parler technologie avec Maxime, collégien à Henri Dunant sur Netreville à Évreux. Voilà, dans le cadre d'ateliers que nous menons, un extrait d'un micro-trottoir donc réalisé par Maxime et des élèves du collège Henri Dunant à Netreville.
La technologie pour vous, c'est quoi ?
La technologie pour moi, c'est l'avenir.
La technologie pour moi, c'est les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les réseaux sociaux, tout ça.
Tous les appareils qui sont connectés, l'électroménager, les téléphones, tout ça quoi.
C'est l'avenir, c'est avant sans la technologie on avait pratiquement rien, c'était un peu... Attends, je sais pas comment l'expliquer.
C'est l'évolution du monde dans l'actualité.
Moi c'est pas des questions avec des bonnes. Alors, la technologie pour vous c'est quoi ?
Ah, la technologie. C'est tout ce qui est... Comment dirais-je ? C'est tout ce qui progresse. Il y a des technologies qui sont... tout ce qui va de l'avant, tout ce qui est un progrès, en fait.
D'accord.
Il y a des technologies qui sont plus ou moins avancées. Oui. Maintenant, technologie, c'est l'avancée de mille et un détails, mille et une choses.
Oh, c'est un peu compliqué pour moi. Ah. Parce que je suis plus toute jeune.
Que du fertile, quoi. Pas des gens vrais, pas des gens francs.
Que pensez-vous de la technologie d'aujourd'hui ?
Bonne question. Alors c'est l'avenir et en même temps c'est dangereux parce qu'elle va trop loin et qu'on oublie l'humain derrière.
Bon, ça s'améliore, ça va. Moi ça, enfin rien de spécial, disons que c'est bien.
Je pense que c'est une super belle avancée, mais que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que mal utilisée, ça peut être dévastateur.
Elle est beaucoup plus performante que celle d'avant. L'électronique est beaucoup plus poussée, Internet est bien développé et tout, avancé.
Je trouve qu'elle est bien avancée, mais après ça pourrait encore plus avancer, puis je pense que ça va avancer plus, enfin, c'est logique.
Ah ben c'est très bien, il faut que ça avance.
Encore une fois, trop compliqué pour une personne de plus de 75 ans.
Quelle technologie utilisez-vous ?
Alors, j'avoue que je suis très accro à mon téléphone. C'est mon deuxième bureau.
Merci d'avoir répondu à ma
question. Je vous en prie.
Moi, j'en utilise pas beaucoup parce que j'ai Facebook pour les réseaux sociaux. Je vais avoir mon smartphone où je fais pratiquement tout dessus. J'ai un ordinateur, mais je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas tout ça. Donc au niveau des technologies, c'est tout ce que je prends. Voilà.
Un petit peu tout, hein. J'ai un PC, j'ai une tablette, j'ai un téléphone et puis j'ai des appareils connectés. Voilà.
Merci.
De rien.
Non, principalement Internet.
Surtout les téléphones. Et pour moi c'est à peu près tout.
J'utilise Internet. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Technologie, j'utilise tout ce qui est maintenant avec Internet, le téléphone. Pour moi, c'est ce qui est bien, c'est ce que j'utilise.
Parler en personne.
Merci.
Pas parler dans le vent, tu vois. Faut parler aux gens. Pour connaître les gens, c'est pas les virtuels. Comme tu parles à un gamin de ton âge, je préfère parler à un gamin de ton âge que parler dans un écran dans le vent, tu vois.
Voilà, les mystères de la technologie ou des technologies restent encore obscurs, mais c'était un extrait d'un micro-trottoir réalisé par Maxime, élève au collège Henri Dunant à Évreux. La suite des aventures de ces élèves-là à retrouver très prochainement sur notre antenne. On va repartir en musique avec quelque chose qui s'appelle Fingers and Cream. Et ils sont en concert sur une soirée cabaret, ça se passe... le 24 janvier. Donc c'est vendredi, ça se passe du côté du silo à Verneuil-d'Avray-Diton à partir de 19h30. On écoute ça tout de suite. Finger and Creams à retrouver en concert vendredi du côté du silo à Verneuil-d'Avray-Diton dans le cadre des soirées cabaret.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
Ah, c'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Voilà, quelques bons plans avant de se quitter, bons amis, différentes choses à retrouver sur différents endroits toute la semaine. Alors, l'exposition Waldo, fusée et destination, vous pouvez toujours aller la consulter, la voir. Ça se passe au Calife à Rouen sur les horaires d'ouverture, donc c'est-à-dire à partir de 10h. Autre exposition à découvrir cette fois-ci au 106, toujours à Rouen, c'est l'exposition Labyrinthe proposée par l'association Pixel. Des concerts, il y en a, on en a déjà parlé. Lee Fields and the Expressions avec The J-Vons, c'est demain, mardi, au 106. Toujours à Rouen, maison de l'université, demain soir à partir de 20h. Sage comme des sauvages en concert, donc c'est à Mont-Saint-Aignan. Conférence, la déambulation théâtrale, c'est proposé par l'atelier 231, c'est à Sotteville, à partir de 18h, mercredi 22 janvier. Le même soir, au 106, les Inuits, audition Haute-Normandie du Printemps de Bourges, on en a parlé tout à l'heure, il y a tout un tas de choses à aller découvrir sur scène. L'entrée est libre, mais c'est sur invitation à retirer sur le site internet réseau. -6printemps.com sur scène vous retrouverez alors Awa Lemen c'est du R&B, Younes c'est du rap, Julius Pellman c'est de la soul, Kumusta on en écoutait un extrait tout à l'heure c'est du post-punk et Dahlia électro sombre, voilà pour ces auditions des Inuits du Printemps de Bourges mercredi au 106 à partir de 18h30. Débat entre candidats sur les mesures à prendre sur les questions climatiques, c'est à la salle Texier, c'est à Rouen, donc il y aura la quasi-totalité des candidats aux prochaines élections municipales pour la ville de Rouen, jeudi 23 janvier, salle Texier à Rouen à partir de 19h, voilà avec tous les candidats, ou presque, les listes en cours pour ces élections municipales. Concert Lysistrata et Slift au Cube, c'est à Évreux, c'est jeudi 23 janvier à partir de 20h30. Soirée cabaret, on en a écouté un extrait, Fingers and Cream, au Silo MJC de Verneuil d'Avray, dit-on, vendredi 19h30. On n'a plus le temps d'en écouter un extrait, mais on aura peut-être l'occasion d'en repasser vendredi matin prochain, car le 24 à 19h30, concert au Mad Cats à Évreux, Metal, Death, Crust, Hardcore, donc ça va faire mal aux oreilles. Pour les amateurs de musique amplifiée, vendredi 24 janvier au Mad Cats à Évreux. Autre concert, rendez-vous et le Ville Juif Underground, c'est au 106, c'est également le 24, c'est donc à Rouen. Chassol, il revient, on avait eu l'occasion de le croiser l'an dernier, il revient au Cube ce vendredi 24 à partir de 20h à Évreux. Et puis dernière chose, on en remettra un coup vendredi matin, à ces mêmes micros. Au 106, il y a l'ami Yacine B qui est Mos Def en concert. Voilà pour la sortie de. Enfin voilà, l'anniversaire de son 20e année d'un album mythique de Mos Def à retrouver en concert. C'est donc au 106 vendredi soir. Voilà. Ça s'annonce pas mal. La révolution est une question technique, notamment autour des questions énergétiques, c'est au théâtre, c'est théâtre L'Échangeur par la compagnie publique Chéri. Voilà, je vous glisse ça, ça peut peut-être vous intéresser. On aura l'occasion vendredi matin de parler d'autres bons plans et d'autres réjouissances culturelles, mais pas que, à retrouver, notamment ce week-end. Demain matin, vous retrouverez à ces mêmes micros l'ami Jean-Jean, comme tous les mardis. Mercredi, ce sera Monsieur Mosquito et toute son équipe. Jeudi, affaire à suivre. Et moi, je vous dis à vendredi matin. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR. Pour connaître nos programmes, et rendez-vous sur nos sites internet respectifs, principeactif.net, radiohdr.net. Dans un instant, sur l'antenne de Principe Actif, vous avez rendez-vous avec le Flash RFI Monde, je vous souhaite une excellente journée et à vendredi matin. Ciao, 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 ciao.